Bonjour Aurélien Taché.
Bonjour.
Lors de son discours pour les 100 ans de l'Organisation Internationale du Travail, hier à Genève, Emmanuel Macron a fait ce que tout le monde appelle déjà un début de mea culpa sur la crise des gilets jaunes. Quand le peuple français, a-t-il dit, dit avec force ce qu'il a dit, il faut savoir l'écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, savoir changer de méthode et entendre le message profond. Nous avons parfois construit de bonnes réponses, mais trop loin de nos concitoyens. C'était une erreur fondamentale, a dit le président de la République. Nous devons transformer notre manière de faire et remettre l'homme au cœur, l'humanité au cœur. Je ne veux pas recommettre la même erreur. Faut-il comprendre, comprenez-vous que ce fameux deuxième acte du quinquennat d'Emmanuel Macron sera très différent du premier ?
Oui, je le crois profondément. Je le crois profondément d'abord sur la question de la méthode. Parce qu'effectivement, quand on est arrivé aux responsabilités en 2017, on a eu effectivement une forme, et c'est normal, hein, d'empressement à vouloir mettre notre projet en œuvre. Et du coup, on a peut-être privilégié le fond à la forme, alors que la méthode est tout aussi importante. Si vous ne convainquez pas les Français que ce que vous faites peut être utile pour eux, si vous ne les embarquez pas avec vous dans votre projet de changement pour le pays, si vous ne les associez pas à tous les niveaux, que ce soit au niveau local, avec les élus qui pouvaient avoir envie de travailler avec nous, que ce soit au niveau des forces sociales de ce pays, syndicats, grandes associations, que ce soit avec les citoyens eux-mêmes, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans une incompréhension. Et cette incompréhension, elle s'est manifestée pendant des mois avec des Français qui étaient sur des ronds-points, qui nous disaient à quel point finalement ils ne comprenaient pas forcément le sens de la politique qui a été suivie, qu'ils ne voyaient pas en quoi elle allait améliorer leur vie, qu'ils avaient aussi un besoin de représentation, un besoin de commun, de construire ensemble, et qu'ils ont réinventé une forme de vie sociale sur ces ronds-points. Et ça doit nous interroger profondément sur ce qu'est notre pays aujourd'hui et sur la manière dont on va conduire cette deuxième partie de quinquennat.
Cet acte 2 donc du quinquennat va être dessiné aujourd'hui par le Premier ministre, qui va prononcer un discours de politique générale devant les députés. Ça sera dans l'après-midi. Vous appartenez à ce qu'on appelle l'aile gauche, hein, pour faire simple, de La République En Marche. Vous vous attendez, vous espérez un virage social vraiment sensible aujourd'hui dans le discours d'Edouard Philippe ?
Je pense qu'en tout cas, il faut qu'on prenne la mesure effectivement de ce que les Français nous ont dit aussi pour ces élections européennes. Vous avez, au moment des élections européennes...
Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? Qu'est-ce que vous avez entendu ?
Bah, écoutez, moi je vois qu'effectivement, on a une crédibilité très forte sur cette question de l'Europe, que Emmanuel Macron, là-dessus, en s'engageant lui-même dans la campagne, a fait augmenter la participation de 10 points par rapport aux dernières élections européennes. Je pense que c'est à lui qu'on le doit.
Ça, ouais, vous lui attribuez les 10%.
De la participation, oui, je pense vraiment que c'est les Français se sont dit, on a un président qui s'intéresse à l'Europe, donc ça vaut le coup d'aller voter, pour ou contre, mais ça vaut le coup d'aller voter. Mmh. Et ensuite, on a eu ce score qui nous conforte sur un certain nombre de sujets, cet engagement européen. On voit bien aussi qu'une partie de l'électorat de la droite ou du centre-droit nous a rejoint parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait en matière économique est certainement très crédible. Mais on voit bien aussi qu'une partie de l'électorat qui était le nôtre s'est reportée sur les écologistes ou sur la gauche. Et ça doit nous appeler certainement à avoir une plus grande ambition encore que celle qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant en matière sociale, en matière environnementale. Et j'espère qu'on va retrouver tout ça dans le discours de politique générale du Premier ministre. Effectivement, on a besoin, par exemple, sur les grandes réformes sociales à venir, assurance chômage, retraite, je vous parlais du changement de méthode, on a besoin par exemple de co-construire ces réformes avec les grands syndicats réformistes et de convaincre les Français que c'est les réformes qu'on va prendre vont être vraiment justes pour eux. Moi j'avais soutenu par exemple la question d'une dégressivité des allocations pour les très hauts revenus en matière de chômage à partir de 6 mois. J'ai l'impression que cette piste est en train d'être prise. J'en suis heureux parce que je pense que la réforme de l'assurance chômage ne doit pas consister à demander des efforts aux plus faibles, mais à ceux qui en ont les moyens. Il y aura aussi cette question du bonus malus sur les entreprises. On va devoir retrouver un certain nombre de grands engagements en matière environnementale aussi. Il y a une loi qui va interdire le gaspillage, une autre qui va travailler sur la programmation d'énergie. Je pense qu'il faut qu'on insiste sur tous ces éléments. Oui.
Est-ce que vous attendez aujourd'hui, de la part du Premier ministre, des engagements clairs sur la question de la PMA, la procréation médicalement assistée ?
Je pense que
c'est un sujet que vous défendez. Hein.
Je pense que c'est une mesure aussi de justice qui est maintenant urgent de mettre en œuvre. C'est un engagement qu'on avait pris en 2017 au moment de la campagne présidentielle. Sur ces sujets-là, vous savez, on a toujours tendance à dire oui, mais bon, vous comprenez, c'est pas la principale préoccupation des Français, c'est important, mais il y a toujours quelque chose de plus important. Je pense que pour ces femmes qui, aujourd'hui, nous ont fait confiance et se sont dit, voilà, nous avons un projet de vie, nous voulons pouvoir recourir à cette PMA sans être obligé d'aller à l'étranger pour celles qui en ont les moyens, et pour les autres, de renoncer à ce projet de vie, il faut prendre cet engagement fort et il faut le prendre dès cette année. Je suis très favorable à ce que le texte soit effectivement étudié dès cette année à l'Assemblée nationale.
On laisse entendre dans l'entourage du Premier ministre que l'immigration devrait être un moment important de sa déclaration de politique générale. On sait que c'est un sujet sensible pour l'aile ou le courant que vous représentez au sein de La République En Marche. Est-ce que c'est une perspective qui vous inquiète, ça ?
Moi, Je suis frappé de voir à quel point parfois, nous les responsables politiques, on donne, et notamment dans le camp progressiste, une ampleur à ce sujet qu'il n'a pas forcément. J'ai été, comme tout le monde, j'ai constaté que pendant le grand débat, il n'y avait eu que très peu de Français qui nous avaient parlé d'immigration.
Alors Emmanuel Macron voulait mettre d'ailleurs l'immigration au cœur
du débat. Oui, il était question à un moment de voir si on ne mettait pas cette question en tant que telle, puis finalement on l'a rapatrié dans la quatrième question sur la démocratie et la citoyenneté, ce qui est à mon avis la bonne manière de faire, puisque quand on parle d'accueillir, c'est surtout de voir comment on peut le faire et comment ensuite on peut penser le vivre ensemble. Donc moi je suis surtout frappé de voir qu'aujourd'hui, j'ai travaillé, comme vous le savez, sur la question de l'intégration, et j'ai remis un rapport il y a un an et demi au gouvernement là-dessus, on a encore beaucoup de difficultés avec des gens à qui on a donné la protection, les réfugiés, des gens à qui la France a dit « je vous protège, vous êtes en guerre, effectivement, vous n'êtes pas un migrant, vous n'êtes pas un migrant économique, vous êtes bien un réfugié ». Et aujourd'hui, 20% de ceux qui sont dans la rue à Paris ou ailleurs sont des réfugiés et n'ont toujours pas de logement. Logeons ces réfugiés, donnons vraiment la possibilité à ceux qu'on a accueillis en France d'y trouver leur place avec un logement, un emploi, et vous verrez que les Français vont se dire « ah mais finalement, il n'y a pas tellement de difficultés, ces gens qui viennent pour travailler, ils s'intègrent bien, ça se passe bien. Dans chaque commune où on a expliqué les choses, les gens étaient au départ réticents pour avoir un centre d'accueil, puis finalement, quand on fait ce travail, quand on explique, ça se passe bien, et à la fin, quand le centre doit fermer, c'est les gens qui réclament à ce que les réfugiés puissent rester. Donc faisons
donc
ce travail d'explication.
Donc vous serez vigilant aujourd'hui sur ce que va dire le Premier ministre.
Moi, j'espère
et
vraiment
vous pourriez
que,
être critique.
J'espère vraiment que si on s'empare de ce sujet, ce sera pour évoquer les vraies questions, et comment on intègre ceux à qui on a fait une place dans notre pays. Vous verrez que ça libérera ensuite tout un tas de places d'hébergement pour les demandeurs d'asile qui sont dehors et que toute la chaîne va devenir vertueuse. Moi, je suis favorable à ce qu'on garde notre valeur et notre engagement très progressiste sur cette question, évidemment.
Vous avez travaillé, vous le disiez, sur les questions d'intégration. Alors, vous vous êtes déclaré favorable au ralliement de maires Les Républicains à La République En Marche dans la perspective des municipales de 2020, mais avez-vous dit à nos conditions, sur nos valeurs. Alors, à eux, vous leur demandez quoi? De s'intégrer ou de s'assimiler?
Écoutez, je vous l'ai dit, je suis un militant du vivre ensemble, donc j'espère qu'ils le prouveront eux aussi en mettant suffisamment d'élus de La République En Marche sur leur liste et qu'on ait une vraie mixité politique sur les listes qui seront celles de ces maires-là. Des actes plutôt que des mots, c'est tout ce que j'ai à dire à ces élus, mais ils sont évidemment les bienvenus si leur démarche est sincère. Et je veux aussi, j'espère aussi qu'on va pouvoir convaincre des citoyens, des électeurs, mais aussi des élus qui viennent d'autres horizons, de la gauche, des écologistes. C'est ça le grand rassemblement progressiste. Vous savez, la grande famille conservatrice est en train de s'unifier en France. Il y a un vrai danger politique pour ceux qui pensent que effectivement, on doit emmener notre pays dans le sens du progrès. Quand vous avez Marion Maréchal qui tend la main aux Républicains et qui explique très tranquillement que de toute façon, elle a voté pour le philosophe anti-IVG François-Xavier parce qu'elle ne votera jamais pour Jordan du 93. C'est ça que ça veut dire les propos de Marion Maréchal quand on l'entend l'autre soir sur une chaîne de télé. Elle dit en gros, nous sommes pareils, nous sommes pour une société où on privilégie la naissance, le rang social, nous sommes pour un projet de société traditionnaliste et conservatrice, et vous verrez que ça va se mettre en place en France et que les progressistes doivent combattre ce danger.
Merci Aurélien Taché, bonne journée.
Merci.